Vous écoutez France Culture.
Et le journal vous est présenté par Élie Abergel. Bonjour Élie.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous. Le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, a officiellement débuté aujourd'hui. C'est l'un des 5 piliers de l'islam, un pèlerinage qui attire des millions de personnes chaque année, mais aussi son lot d'arnaqueurs. L'ancien secrétaire général des Nations Unies est mort hier. Kofi Annan aura consacré sa vie à la diplomatie mondiale et il entretenait des rapports parfois compliqués avec les États-Unis, nous dira Grégory Phillips. Le Parlement européen souhaite prendre des mesures après l'effondrement du pont Morandi à Gênes, une taxe poids lourd et même à l'étude chez les députés européens. Objectif, rénover les infrastructures routières vieillissantes. Et puis le Bitcoin, la reine des crypto-monnaies, fête ses 10 ans cette année. Alors quel usage au quotidien pour cette cyber-devise au cours si fluctuant? Le reportage d'Evan Le Bastard au Bitcoin Boulevard à Paris à la fin de cette édition. La terre s'est remise à trembler aujourd'hui sur l'île indonésienne de Lombok, 2 semaines après un séisme qui a fait plus de 460 morts. La secousse d'aujourd'hui de magnitude 6,3 n'a pour l'instant fait aucune victime. Des scènes de panique ont été signalées et quelques glissements de terrain ont eu lieu dans un parc national. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Le Hajj, le grand pèlerinage de la Mecque, débute aujourd'hui en Arabie Saoudite. Plus de 2 millions de pèlerins sont attendus, dont 20 000 à 30 000 Français. Pour les fidèles, le Hajj, c'est un moment important. C'est parfois leur premier voyage à l'étranger. Alors les plus modestes économisent des années pour le financer, car ce séjour spirituel est aussi très coûteux et réserve parfois de mauvaises surprises. Sébastien Sabiron.
Il y a 2 ans, Nafisa Karbadou s'apprête à vivre son pèlerinage. 25 jours en famille en Arabie Saoudite, un séjour à 5000 euros, le voyage de sa vie.
On me vendait donc un séjour avec un vol sans escale dans un hôtel 5 étoiles au pied de la Grande Mosquée. J'ai eu un vol avec escale. J'ai eu un hôtel à 5-6 km de la Grande Mosquée, dans un hôtel insalubre. Plus important encore, nous avons été abandonnés sur place par notre guide.
Sur place, Nafisa dépense 800 euros de plus en nourriture et taxi pour aller prier à la Grande Mosquée. Aucune nouvelle du commercial qui lui avait vendu ce voyage en la démarchant à domicile.
Ce sont des personnes qui vont venir chercher de l'argent chez vous, qui vont récolter vos passeports. Ces personnes n'ont pas de statut juridique, ce sont juste des intermédiaires qui ramènent des pèlerins à des agences agréées ou non agréées.
Des rabatteurs qui tractent aussi dans les mosquées en toute illégalité, selon Chokri Saïdi, directeur de l'agence Gomeka.
Les personnes qui ont des mauvaises expériences, certainement, ils ont acheté leur voyage soit dans des mosquées, soit chez des rabatteurs. Normalement, la mosquée doit renvoyer les gens vers l'agence de voyage avec qui elle collabore pour que le client soit protégé par un contrat qui le lie directement à son agence de voyage.
L'association ACEF, qui traque les arnaques au pèlerinage, s'apprête à saisir la direction de la concurrence et de la répression des fraudes à propos de 60 agences de voyage aux pratiques jugées frauduleuses.
Et par ailleurs, le Hajj se déroule cette année sur fond de tensions entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Une grave crise diplomatique oppose les deux pays depuis 2017. Aucune liaison aérienne n'est assurée et la frontière terrestre est fermée. Le Qatar reproche à l'Arabie Saoudite d'empêcher ses pèlerins de se rendre à la Mecque. Le royaume saoudien, de son côté, assure que tous les croyants sont les bienvenus. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est mort hier. Il aura travaillé presque toute sa vie à l'ONU. Il en a pris la tête de 1997 à 2006. Kofi Annan s'est confronté au génocide au Rwanda, à la crise post-électorale kényane de 2008. Le diplomate a également fait de la lutte contre le VIH une priorité. Mais surtout, Kofi Annan aura eu à gérer le dossier de l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Il n'aura pas réussi à empêcher l'intervention des États-Unis, pourtant décidé sans mandat de l'ONU, une guerre qui aura durablement refroidi les relations entre Annan et l'Amérique, explique Grégory Phillips.
Les regrets de Kofi Annan en 2003, l'Amérique de George W. Bush vient de déclencher la guerre en Irak avec le seul soutien des Britanniques et sans mandat des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU n'a pas pu empêcher l'intervention militaire. Nous aurions dû persévérer et trouver une solution collective. 3 ans plus tard, lors de l'un de ses derniers discours en tant que secrétaire général, c'est une nouvelle fois aux Américains que Kofi Annan s'adresse et il les prévient.
Nous ne pouvons réussir qu'à travers un système multilatéral. Comme le président Truman disait, la responsabilité des grandes nations est de servir et non pas de dominer les autres peuples du monde. Il nous a montré ce qui peut être accompli quand les États-Unis assument leurs responsabilités. Et aujourd'hui encore, aucune de nos institutions ne saurait être efficace si les États-Unis se montrent distants.
Kofi Annan, défenseur du multilatéralisme et des solutions collectives, s'était montré évidemment critique à l'égard de Donald Trump. L'ancien patron des Nations Unies avait condamné le retrait américain des accords de Paris sur le climat, ainsi que le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, une décision qui, aux yeux d'Annan, a rendu le monde encore un peu plus dangereux.
Des manifestations hostiles aux migrants ont eu lieu hier au Costa Rica. Des manifestants ont tenté de s'en prendre physiquement à des migrants du Nicaragua dans un parc du centre-ville de San José. Certains contestataires portaient des croix gammées. Ils ont été dispersés par la police. Selon des chiffres officiels, il y aurait environ 23 000 Nicaraguayens au Costa Rica. Le pays a sollicité une aide de l'ONU pour faire face à l'afflux de réfugiés qui fuient la crise politique du Nicaragua. En France, le débat sur l'écotaxe est relancé après l'effondrement du pont Morandi à Gênes. Le bilan officiel est de 43 victimes. Il n'y a désormais plus de disparus. Pour beaucoup, cette catastrophe serait liée au trop grand nombre de camions qui empruntaient ce pont. Parmi les solutions avancées, il y a le développement du fret ferroviaire ou encore la taxe sur les camions. Et justement, le Parlement européen est en train de travailler sur une taxe poids lourd à l'échelle européenne. Karim Adeli est la présidente de la commission transport du Parlement européen.
Il y aura un fléchage des recettes. Ces recettes iront en priorité pour sécuriser l'ensemble des infrastructures au niveau européen, mais de faire en sorte que demain il y ait moins de camions sur les routes et qu'on relance notamment le fret ferroviaire, qu'on trouve plus de camions sur le fluvial et faire en sorte d'investir sur une mobilité qui soit durable et accessible pour tout le monde. Le Parlement a pris ses responsabilités, maintenant il faut rentrer en négociation avec les États membres et j'invite le gouvernement à nous appuyer et à porter cette nouvelle redevance poids lourd qui, pour la première fois, ne sera pas basée sur le temps, mais bien sûr sur les kilomètres.
Karima Deli, députée européenne EELV et présidente de la commission transport du Parlement européen. Et justement, pas d'alliance entre Europe Écologie Les Verts et Benoît Hamon aux prochaines élections européennes. Le chef de file de EELV, Yannick Jadot, a rejeté cette hypothèse dans un entretien au journal du dimanche. Aujourd'hui, le leader écologiste croit savoir que sa formation a un potentiel énorme et vise un score de 15%. À la dernière élection présidentielle, Yannick Jadot s'était désisté en faveur de Benoît Hamon. Celui-ci avait été éliminé dès le premier tour avec un score de 6,3% des voix. Nathalie Kosciusko-Morizet devrait tourner la page de la politique. L'ancienne figure des Républicains va annoncer dans la semaine sa démission du Conseil de Paris. NKM a quitté l'arène politique et médiatique voilà un an après une cinglante défaite aux législatives. Elle travaille actuellement chez Capgemini à New York. Voilà 10 ans que le nom de domaine bitcoin.com a été déposé. 10 ans que cette crypto-monnaie attise les craintes et les fantasmes. Véritable révolution financière pour les uns, pure arnaque pour les autres. Le bitcoin a connu un destin mouvementé. Son cours a énormément fluctué ces dernières années. Si un bitcoin ne valait pas grand-chose à sa création, sa valeur a frôlé les 20 000 euros fin 2017. Aujourd'hui, un bitcoin s'échange contre 5 500 euros. Et à Paris, il existe même un boulevard du Bitcoin où cette monnaie est acceptée par les commerçants. Evan Lebastard.
Il est 11h, Gaël Waki ouvre sa boutique d'objets anciens. Sur la porte, une petite étiquette qui dit « Ici, on accepte le Bitcoin ». C'est lui qui a converti toute la rue à cette crypto-monnaie, même s'il reconnaît qu'il y a peu de clients pour l'instant.
Ça a commencé très doucement, les encaissements, et puis ça s'est accéléré, alors aussi en fonction des pics du Bitcoin, la médiatisation. Pour l'instant, le plus gros des ventes, c'est les étrangers, donc de passage à Paris, ou alors des jeunes. Ça devient la mode.
Une mode qui attire même des clients atypiques.
La semaine dernière, on a reçu un voyageur asiatique de Corée du Sud qui ne voyageait qu'en Bitcoin. Donc hôtel Bitcoin, taxi Bitcoin, boulangerie Bitcoin.
Jeff est en train de chiner dans le magasin. Il a beau bien connaître le Bitcoin, il ne savait pas du tout qu'ici, on pouvait payer avec.
Nous, on est venu plutôt pour le passage. On n'a pas de Bitcoin pour l'instant, donc... Même si au bout d'un moment, ça va devenir une monnaie qui va s'installer durablement parce qu'il y a beaucoup d'intérêt. Mais pour l'instant, c'est un peu trop cher, je trouve.
Il faut dire qu'un bitcoin vaut environ 5 500 € aujourd'hui et que son cours est instable. Alors pour cette fois, Jeff va régler en liquide.
Evan le bastard. La météo de cet après-midi, les températures qui remontent considérablement partout en France, 29 degrés à Paris, 32 degrés sur la Côte d'Azur, 29 degrés à Bordeaux. C'est la fin de ce journal. Cette édition a été réalisée avec Martin Descloseaux à la technique Florent Bujon.